I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si nous pouvions avoir des sponsors pour des projets qui nous font rêver, même sans être des champions? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et de mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la prise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion et championne du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine plus équilibrées que celles d'avant. C'est gratuit, adresse suivante, bertrandsoulier.com/bonus. Et bien entendu, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui dans le podcast, je reçois Agathe. J'ai découvert Agathe par son compte Instagram et surtout par un de ses messages sur LinkedIn avec une accroche « I am finisher ». Elle venait de finir l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne. Elle a raconté aussi une idée folle qu'elle a eue il y a quelques années. Cette idée, c'est d'aller courir le marathon de la muraille de Chine. Un projet coûteux par le voyage, mais aussi par les moyens mis dans la préparation de ce défi. Un coach et un préparateur mental pendant des mois. Une préparation qui lui a permis d'avoir son article dans le journal sportif L'Équipe, comme une championne. Pourtant, Agathe n'est pas pro. Elle n'a commencé la course qu'en 2016 pour perdre du poids. Et ça a été très efficace, même si elle a connu la blessure en se prenant au jeu des courses. Mais Agathe a un atout. Elle s'est communiquée et a utilisé ses talents pour aller démarcher des partenaires qui l'ont aidé à financer sa course de rêve. Alors, comment a-t-elle fait? Quel est son parcours? Comment s'est-elle retrouvée dans les journaux? Et au fait, a-t-elle réussi à courir ce marathon en Chine? Vous le saurez en écoutant ma discussion avec Agathe. Allez, c'est parti. Bonjour Agathe.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Ben ça va très bien. Et toi?
Ben écoute, ça va très bien. Tu sais, moi je suis sur ma chaise de bureau, je regarde le beau ciel bleu dehors. Je me dis, on va blablater running, sport, tout ce que ça nous apporte dans notre quotidien. Alors, je vois pas quoi d'autre à redire. Tu vois, je suis bien. Voilà.
Ouais,
je te donne l'état d'esprit. Tu vois, c'est tranquille.
Nous, il fait très beau aussi dans notre belle région bordelaise, donc c'est une agréable journée.
Et ben voilà. Et ben écoute, c'est parfait. Alors, je ne vais pas dire encore pourquoi je t'ai invité. Moi, j'ai ma petite idée, je le sais. Et en fait, j'ai vraiment envie que les gens découvrent un peu ton parcours. Et puis, il y a des choses que j'ai vues que tu avais faites, qui m'avaient intrigué, que j'ai trouvé super intéressant. Alors, ce que je te propose d'abord, c'est de, en quelques mots, de présenter ton parcours. Alors, le parcours sportif, on va le garder un petit peu, mais dire comment tu te présentes là, tu vois, si, en quelques mots, tu es qui? Enfin, c'est difficile, je sais, mais en quelques mots.
Alors, donc je m'appelle Agathe, j'ai 32 ans, bientôt 33, mais bon, ça, faut pas le dire. Les années
personne
passent.
Personne n'a entendu.
Alors, c'est vrai que c'est difficile de se présenter sans trop rentrer dans les détails, mais voilà, je vis à Bordeaux, enfin, dans la région bordelaise, depuis toujours. Et donc le sport fait partie de ma vie de plusieurs façons. Ça a été un parcours assez laborieux à bien des regards, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et voilà, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime l'aventure, qui aime faire plein de choses. J'ai toujours 1000 projets en tête. Et voilà, du coup, j'avance dans la vie. Je suis chargée de communication. Je travaille dans une grande banque. J'ai eu aussi un parcours un peu sinueux dans mon parcours professionnel qui quelque part est lié aussi à mon parcours sportif. Mais oui, il y a plein, c'est assez. Voilà, j'ai fait plein de choses dans ma vie. On va dire ça comme ça.
Ouais. Mais en fait, c'est la beauté des choses. Et moi, ce qui m'a intéressé, bon, On va pas dire encore si tu as réussi ou pas. Il y avait un projet sportif qui était immense, un sacré projet, un beau voyage et tout. Mais la question que je m'étais posée quand je t'avais vu sur un post LinkedIn il n'y a pas longtemps. Bon, faut dire, on a eu quelques soucis pour arriver à se caler. Hein, donc, le pas longtemps est peut-être très relatif dans mon esprit. C'était après, si je ne me trompe pas, c'était quoi ? Un Alpha Ironman ?
Oui.
Tu as posté ?
Ouais, c'est ça, un Alpha Ironman. Et c'était une grande fierté pour moi. Donc voilà, j'en ai parlé et je me suis. Enfin voilà, je l'ai clairement affiché parce que je suis très fière de ce que j'ai accompli.
L'Alpha Ironman, c'était pas ton plan de départ ?
Non.
Non, hein.
Non, c'était pas du tout mon plan. Le triathlon n'était pas du tout mon plan de départ. Parce que du coup, je courais à la base et j'avais un projet un peu fou, complètement fou à l'autre bout du monde. Je ne sais pas si j'en parle dès maintenant.
Si, tu peux le dire.
Si. Mais alors, du coup, là, il a fallu faire le deuil de ce projet-là. Je devais courir le marathon de la Grande Muraille de Chine, qui peut être qualifié d'un des plus durs au monde. Alors, c'est peut-être un côté un peu marketing, mais parce qu'il y a plus de 5000 marches à monter et du coup à descendre. Donc, on est un peu entre le trail et la course, pas vraiment sur route, parce que c'est pas vraiment des routes. Donc, c'est un peu un mix de plein de choses. Mais voilà, c'était un super projet, tout était calé, tout était réservé. J'avais des partenaires financiers qui m'accompagnaient, j'avais une équipe autour de moi. Et puis, y a eu le Covid. Et donc, ça a tout remis en question. Mais voilà, dans la vie, il faut savoir faire preuve de résilience. Je pense que ce mot-là... ça résonne dans la tête de beaucoup de gens ces derniers temps. Après, j'ai pas, enfin, vu que c'est quelque chose, c'était pas de mon fait. Je l'ai accepté parce que moi j'avais fait tout ce que, enfin, j'étais prête de mon côté. Alors, c'est un côté frustrant aussi, mais c'est pas moi qui ai failli. Voilà, c'était un cas de force majeure pour le coup. Et puis, ça m'a amené à beaucoup réfléchir et de fil en aiguille, alors pas de suite parce que le temps que voilà, mais du coup, je me suis j'ai fait d'autres marathons en plan B et après, j'ai également je me suis lancée dans le triathlon pour me challenger parce qu'en fait, au final, c'est le challenge qui me plaît. Et voilà, j'étais un peu fébrile au début, mais au final j'y suis allée. Et puis parce que je fais jamais les choses à moitié, je me suis dit allez, on va se lancer sur un Alpha Ironman. J'avais même pas un an de triathlon dans les jambes, mais voilà, c'était un super projet. Et au final, je sais pas si je serais allée sur le terrain du triathlon si j'avais fait le marathon en Chine, peut-être que si, peut-être qu'on ne sait pas. Donc au final, je me dis que quand il arrive quelque chose, certes, il faut arriver à l'encaisser et à le digérer, mais ça amène aussi de belles choses derrière. Donc c'est ça qui est intéressant.
Moi, dans mon esprit, alors je ne sais pas si je me trompe ou pas, le marathon de la Grande Muraille, je crois que c'est Marine Leleu qui m'en avait parlé, hein, qu'elle devait le faire, ou je ne sais pas si elle l'a fait, non ?
Oui. En fait, on devait le faire la même édition.
D'accord.
On devait le faire. Et en fait, Marine Leleu m'a coachée pendant plus d'un an. Et du coup, on avait le même objectif, la même course en tête. Et du coup, on a travaillé ensemble pendant plus d'un an. Enfin, elle m'a coachée pendant plus d'un an. Et quand on voyait que c'était toujours pas possible d'obtenir un visa pour la Chine, que... on n'y croyait pas vraiment. C'est toujours pas possible à l'heure actuelle. C'est toujours pas possible d'aller en Chine. Il a fallu se faire un peu... de se dire, c'est pas possible. Et je pense que Marine Leleu n'est pas... a contribué à cette idée de me mettre au triathlon aussi.
Ouais. Et alors, attends, tu sais, moi, je peux pas m'en empêcher de poser la question quand même. Et comment Marine Leleu en coach?
Elle est comme elle est sur les réseaux, elle est très bien. on a un peu la même façon de penser sur le même état d'esprit sur pas mal de choses et comment aborder la vie. Donc c'était très agréable de collaborer avec Marine. Et d'ailleurs, on s'est eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, du coup, cet été, du coup, je lui ai raconté mon Alpha Iron Man et tout ça. Enfin, voilà, donc c'était très cool.
Ouais, et je rappelle, alors pour ceux qui ne le savent pas, je l'avais eu en invité, mais justement, c'était, je crois que c'était 2020, c'était juste avant le. Bah avant, c'est péripéties hein, de tout ce qui est arrivé. Elle nous avait partagé ses astuces sur le triathlon, sur la natation, sur plein de choses. Et surtout, elle a partagé son sourire, son dynamisme. Si vous la suivez sur Instagram, elle était encore en train d'encourager beaucoup de monde. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'elle a une énergie. J'imagine qu'elle est capable de communiquer de l'énergie. Puis là, je sais pas, elle a l'impression que j'ai une force mentale. Quand tu dis que tu veux faire un Ironman, elle dit vas-y, banco. Comment elle dit ça en fait?
Alors, j'ai pas forcément demandé par rapport à ça, parce qu'au final, au moment où je me suis vraiment mis au triathlon, elle me coachait plus à ce moment-là, parce que le coaching qu'on a fait ensemble, bah, c'était dans un premier temps pour le marathon de la Grande Muraille de Chine, mais finalement, on a trouvé le plan B et j'ai fait le marathon de Paris. Bon, c'est un peu moins exotique, mais j'ai fait le marathon de Paris. Et du coup, à ce moment-là, bah, j'ai fait une pause dans le coaching parce que bah, ça a un coût, enfin, voilà, il y a plein de choses. Et au final, Marine, elle a une façon de travailler où elle l'accompagne sur la partie renforcement musculaire, mais elle ne va pas forcément faire tous les plans d'entraînement, les choses comme ça. Et moi, pour le triathlon, j'avais plus besoin qu'on m'accompagne sur comment faire cohabiter tous les sports. Et au final, ben, du coup, je me suis dirigée vers un autre coach. Mais en tout cas, on en avait parlé. Je lui avais demandé des petits conseils, des petites choses. Voilà. Mais après, j'ai pas forcément cherché une approbation ou quoi. Enfin, ça s'est fait comme ça, au final, c'est
Tiens,
naturellement.
alors, tu vois, c'est une question qui est intéressante quand même. Tu as trouvé plusieurs. Enfin, tu as dit, tu as pris un coach pour le tri et tout. Parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question de chercher un coach et tout. Comment toi, dans ta recherche, quand tu as cherché des coachs, comment tu pratiques et comment finalement tu te dis, tiens, c'est ce coach-là qui va m'accompagner pour un tel projet?
Alors, j'ai eu plusieurs coachs. J'ai eu, en fait, ce qui s'est passé pour revenir à la genèse, c'est que quand j'ai commencé à courir et que je me suis lancée dans le projet de faire un marathon, je me suis blessée peut-être 2 semaines avant le marathon que je devais faire, qui était le marathon de La Rochelle. Et en fait, parce qu'en fait, j'ai mal géré la récupération, j'en ai trop fait, je me suis trop entraînée et du coup, je me suis blessée. Et quand j'ai eu cette idée de faire le marathon de la Muraille de Chine, je me suis dit que pour un tel projet qui demande tellement d'investissement, que ce soit financier, en temps, en préparation, je ne peux pas me lancer dans un projet comme ça sans être accompagnée. Sinon, c'est prendre un risque que je ne voulais pas prendre. Et du coup, j'ai cherché un coach, j'ai cherché voilà qui pouvait m'accompagner. Et en discutant avec différents contacts, différentes personnes que je connaissais, on m'a conseillé quelqu'un sur Bordeaux que je suis allée rencontrer. Et en fait, moi, j'ai présenté mon projet et en disant que je cherchais aussi un partenaire pour, enfin c'était dans cette idée de vraiment devenir partenaire pour la course et du coup là c'était vraiment alors certains diront que mon dispositif était trop gros pour le niveau que j'avais hein, parce que j'ai pas un gros enfin je suis pas athlète je fais pas des performances mais du coup on a mis en place tout un dispositif d'accompagnement où j'avais tous mes entraînements qui m'étaient donnés, j'avais tous les renforcements musculaires qui étaient faits avec ce coach-là, j'avais un prépa mental et de la cryo. Et donc j'avais tout un package que j'avais inclus en fait pour financer mon voyage, j'avais établi un budget et tout le prix de ma préparation avec ce coach-là était inclus dans mon budget. Et du coup, quand j'ai trouvé toutes les finances nécessaires, ben, c'était financé, ça me permettait de financer ce dispositif-là. Parce qu'au final, c'est la clé pour réussir un tel projet. Et donc voilà, donc pendant plus d'un an, on a travaillé ensemble, enfin voilà, on s'est entraîné ensemble. C'était quelqu'un qui était très performant qui avait l'habitude de travailler avec des athlètes professionnels. Alors, des fois, il oubliait un peu que j'étais pas athlète professionnelle. Mais voilà, en tout cas, il y a eu des beaux progrès. J'ai fait tomber des records personnels sur certaines courses et tout. Donc, il y a vraiment eu et puis enfin, il y a vraiment une évolution et un accompagnement et une rigueur que je n'avais jamais eue. dans un suivi comme ça. Alors, quand est arrivé du coup le Covid, enfin où tout le monde était confiné, ça faisait déjà quelques semaines où je me posais des questions par rapport à ce coaching-là parce qu'il était très performant, mais humainement, il y avait un petit blocage. C'est pas qu'on s'entendait pas bien, mais il y avait un petit blocage. On n'était pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde. Moi, je suis pas professionnelle. En plus, à ce moment-là, je travaillais dans un club de rugby professionnel. Et du coup, j'avais un emploi du temps très, 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 très chargé. Donc, je faisais beaucoup d'heures. Je travaillais un week-end sur deux. Donc, il fallait composer avec mon agenda, ce qui n'était pas toujours simple. Et j'avais une charge mentale et physique à prendre en compte. Chose qui n'était pas forcément toujours bien pris en compte, mais je remets pas en cause. Il était très professionnel dans sa manière de travailler, mais voilà, humainement il y avait un petit blocage. Et quand est arrivé le confinement et tout ça, et ben en fait comme beaucoup de gens, je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit ok, et ben pour la suite des choses, je préfère changer. Puisque bon, les projets étaient quand même remis très en cause. Enfin voilà, on savait pas trop à ce moment-là vers quoi on partait, mais j'ai fait le choix de me dire ok, c'est le moment de changer. Et à ce moment-là, en fait, Marine Leleu avait mis un message sur Insta en disant que ben elle arrivait sur Bordeaux et qu'elle ouvrait les coachings sur Bordeaux. Et ben banco, je lui ai envoyé un message. Et puis ben voilà, c'est parti comme ça. Et au final, avec Marine, ben j'avais tout ce côté humain qui me manquait clairement avec mon précédent coach. Et ben là, c'était exactement ce que je cherchais. Et ne serait-ce que c'est tout bête, mais que quand Marine me dit, quand on commence une séance, comment tu vas ? Comment tu vas vraiment ? Et ben ça change déjà pas mal de choses parce que du coup, en fonction dans l'état d'esprit dans lequel je suis, elle va savoir vers où elle peut m'emmener dans la séance. Et mine de rien, c'est important à prendre en compte. C'est pas juste bêtement appliquer un programme d'entraînement et sans prendre en compte le reste. Et du coup, là, on a travaillé ensemble pendant plus d'un an. Donc, j'ai fait le marathon de Paris. Voilà. Après, j'ai pris du temps pour me reposer. Quand je fais des grosses courses, je mets toujours un peu de temps à me remettre après en route. Et puis, quand je me suis dit, OK, je vais me mettre au triathlon, j'avais posé la question à Marine, elle m'a dit, ça, je ne peux pas t'accompagner là-dessus. Je dis, OK, alors je me suis mis à chercher. J'ai cherché, j'ai demandé à des contacts, machin, et puis, personne ne me proposait, enfin, il ne me proposait pas, il ne pouvait pas me faire des entraînements sur les trois sports. J'étais là, comment je vais faire? Et puis, au final, c'est sur Insta que j'ai trouvé. Ce coach-là, on n'habitait pas du tout dans la même région, mais qui, voilà, qui accompagnait déjà plusieurs sportifs. Et du coup, on a échangé. Son discours m'a beaucoup plu. Il y avait un échange, on pouvait faire le point toutes les semaines pour ajuster si besoin. Enfin, ça me plaisait bien. Et puis, du coup, il m'a fait mes plans d'entraînement dans les trois sports pendant 4 mois, je crois. Et puis voilà, du coup, ça s'est bien passé et ça m'aidait à mettre un cadre. Alors, j'ai pas besoin qu'on me dise, c'est ce qu'on se disait avec Marine. Moi, j'ai maintenant la rigueur de savoir qu'il faut que j'aille faire mes 3 séances de running, machin. Enfin, j'ai pas forcément besoin là-dessus. Mais en fait, c'est d'arriver à concilier les 3 sports et pas en faire trop en running parce que il y a les 2 autres sports. Enfin, c'était pas simple. Maintenant, j'ai appris beaucoup à connaître mon corps avec les années. Et donc sur le running, je pense que je me connais plutôt bien. En natation, j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune. Donc même si je vais pas forcément très très vite comme certains, j'ai une technique qui est là et en tout cas je peux nager longtemps, donc ce qui est déjà pas mal. Et après c'était sur le vélo surtout, comment s'entraîner pour le vélo, quelle distance faire, quel volume à avoir, tout ça je savais pas. Puis cette découverte du triathlon, J'ai des anecdotes où je suis dans des sas de départ. Tu vois clairement que je suis une touriste, que j'arrive là. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y avait? Où j'ai des gens qui me disent, ah non, la puce, vous ne l'avez pas mise au bon endroit, il faut la mettre à l'autre jambe. Ah, merci. Donc, elle est clairement marquée débutante sur mon franc. Mais bon, en tout cas, voilà, ça m'a aussi permis de me donner confiance et de me dire que j'étais pas toute seule, parce que le triathlon, ça fait un peu peur quand même, à certains égards.
Mais et après, on est tous débutants dans quelque chose. À un moment
Oui.
donné, après, là, tu me dis, attends, la puce, elle n'est pas la bonne jambe. C'est-à-dire qu'il y a une jambe particulière pour mettre la puce au triathlon?
Et bah oui, sur la jambe gauche, visiblement.
D'accord.
Et pas la jambe droite. Là, ok, je ne savais pas. Et après, on m'a dit, ah, mais il faut que tu la mettes sous ta combi, sinon on va te l'arracher pendant la natation. Je dis, ah, d'accord, ok. Donc, bon, bah voilà. Ou bah, je me suis trouvée bête. Ça peut paraître ridicule, mais d'avoir mon sac, aller récupérer les sacs de transition pour mettre après toutes les affaires là où il faut, et d'avoir les autocollants à coller sur les sacs de transition et ne pas savoir de me prendre la tête à savoir dans quel sens fallait que je colle les étiquettes sur le sac, alors qu'en vrai on s'en fout. Et pareil, le tatouage, j'en fais quoi, je le mets où? J'avais même pas capté qu'il fallait que je mette de l'eau. Moi, j'ai pas d'enfant, je fais pas des tatouages à mes enfants. J'ai, ah, faut mettre de l'eau, ah, ok, d'accord, pour que ça coche. Enfin, j'ai été, mais en fait je pense qu'il y avait le stress aussi. Et sur le moment, tu te dis, il y a tellement de choses à penser, à pas oublier, que le moindre truc, ça te paraît. Mais bon, mais maintenant, ça va, j'ai tout compris.
Bah, écoute, et c'est ça, de toute façon, l'apprentissage. Surtout, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que ton parcours sportif, il y a une époque, c'était, enfin, si les gens voient la photo d'il y a, c'était il y a combien d'années, les photos qu'on voit sur ton blog, en fait?
Avant 2015, avant 2016, avant 2016.
Ouais, et donc, t'as perdu combien, en fait?
J'ai perdu plus de 35 kilos en 4 mois environ. Alors, les gens, ils me disent, mais c'est pas possible de perdre autant de poids comme ça. Je dis, bah, si. Mais après, voilà, je pense qu'on n'est pas tous égaux face à ça, et que je pense que j'ai eu aussi un métabolisme qui a fait que voilà, ça a bien fonctionné. Après, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne et que j'ai des résultats efficaces. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, quand je me lance dans un projet, bah, j'y vais à fond et je mets toutes les chances de mon côté. Donc, à tous les niveaux, bah, j'ai fait en sorte, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai privilégié les sports qui étaient le plus énergivores en dépenses caloriques. Avec des cours très cardio qui bougent dans tous les sens, voilà. J'ai fait le choix de faire des cours collectifs parce que, bah, en fait, c'est la honte si tu pars au milieu du cours. Donc, t'es en fait obligé de rester jusqu'à la fin. Non, mais c'est tout bête. Mais quand
Ouais.
tu pars de pas grand-chose au début, donc ça, en fait, j'étais portée par le collectif au final.
Ouais.
Et à côté de ça, j'ai pas négligé le renfo. Et du coup, quand je faisais du cardio, bah, je faisais du renfo. Et généralement, j'essayais de faire d'abord le renfo et ensuite le cardio. Comme ça, dans les dépenses caloriques, c'était plus optimal. Et puis, dans ma façon de manger, alors je n'ai pas fait de régime strict. Je n'aime pas le mot régime. Je n'ai pas fait de
Ouais.
régime. J'ai mangé la même chose, sauf que, bah, forcément. J'ai réduit les quantités, j'ai mangé moins gras, moins salé, moins sucré. Enfin, ça peut paraître simple dit comme ça, mais c'est la réalité. Et au final, on se rend pas compte du nombre de calories qu'on mange par jour. Et en fait, ça passe par avoir conscience et faire un constat. Qu'est-ce qu'on mange dans la journée? Parce qu'il n'y a pas de secret pour perdre du poids. Il faut être, il faut dé il, enfin, il faut dépenser plus de calories que ce qu'on en mange. Et donc, du coup, j'ai d'abord, avec une application, pris le temps de dire, OK, donc j'ai mangé ça, mangé ça, mangé ça. Donc, j'ai mangé tant de calories dans la journée. Bon, bah, OK, je suis dans le bon, je suis pas dans le bon, j'ajuste. Et après, c'est un équilibre à trouver sur la semaine. De se dire, bon, bah, là, j'étais un peu au-dessus, mais du coup, demain, je vais faire en sorte d'être un peu en dessous. Et puis, j'ai toujours gardé au moins un repas à plaisir où je ne faisais pas gaffe aux calories. Et au final, le fait de ne pas être dans la frustration, je pense que ça aide aussi beaucoup. Alors voilà, ce que je dis là, ça a marché pour moi, mais ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Mais en tout cas, dans mon cas, ça a fonctionné. Parce qu'au final, l'importante prise de poids que j'ai eue, c'était lié à un peu une instabilité au niveau professionnel ou du coup beaucoup de stress, des difficultés à se projeter sur l'avenir parce que j'enchaînais beaucoup de CDD, d'intérim et avec des contrats qui ne sont pas toujours bien terminés où ça te fait beaucoup remettre en question. Et en fait, dans la vie, c'est compliqué de mener plusieurs batailles de front. Enfin, il y a des priorités à avoir et en fait, à ce moment-là, ma priorité, c'était professionnellement. Ce n'était pas forcément… on ne peut pas tout mener de front. Ce n'est pas possible. Après, ça devient trop compliqué à gérer. Et au final, du coup, une fois que j'étais stabilisée dans mon travail, c'est là où… et de toute façon, on le voit, j'ai dû signer un CDI en juillet et en mois d'août… je commençais à faire du sport à fond. Donc bon, après, ce qui m'a aidé, c'est que à mon travail, du coup, j'avais une carte de sport gratuite. Donc, j'avais pas d'excuses en plus.
En
je ne pouvais pas dire non, ça coûte trop cher d'aller à la salle. Bah non, j'avais une carte gratos. Donc ça m'a donné aussi ce petit élan. Et du coup, là, j'ai fait comme ça et ça a plutôt bien marché. Et du coup, bah voilà, j'en suis très contente. Et maintenant, le sport fait partie de mon quotidien. Et en fait, au début, je faisais beaucoup de sport en salle, en cours collectif, très cardio. Après, je me suis mis à aller courir. Je m'en souviens encore très bien. Et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là, parce que je n'aimais pas courir avant, vraiment. Je n'étais à l'aise que dans l'eau. Et donc là, courir, voilà. Et en fait, je me souviens encore très bien, c'était en mois de novembre 2016. J'ai mis mes chaussures. En plus, c'était même pas vraiment des baskets pour aller courir. C'était des baskets de salle d'intérieur. Enfin, un truc pas très optimal pour le running. Il faisait froid. J'ai dû aller courir 5 km. Je suis revenue. Et je me suis dit, OK, là, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, OK, donc si je. Parce que je pense que j'étais arrivée au bout d'un cycle. Ça faisait déjà. Donc, de août à novembre que je faisais de la salle, et au bout d'un moment, j'avais besoin de diversifier, de changer un peu. Et ça a été, voilà, j'ai pris le chemin du running, j'ai commencé à courir deux fois, puis trois fois par semaine. Puis après, j'ai commencé à courir à jeun le matin. Du coup, ça m'a permis d'essayer de capitaliser pour brûler les calories, Et donc, ça a bien fonctionné. Et en courant régulièrement, je me suis fait un peu titiller par mes collègues qui me disaient, mais vu que tu cours trois fois par semaine, pourquoi tu t'inscris pas au semi-marathon de Bordeaux? Et je les regarde, je fais, mais vous êtes des grands malades. Et puis, en fait, moi, faut pas me lancer un défi. Parce qu'en fait, avant même la fin de la journée, ma décision, elle était prise. Je me suis pris mon dossard pour ce semi-marathon de Bordeaux. Et du coup, c'était genre 2-3 mois après. Et donc là, j'ai investi dans une montre, dans des vraies chaussures de running. Je suis allée m'acheter une tenue. Et je me suis trouvé un petit plan d'entraînement où je c'était pas trop compliqué parce que quand il y avait des pourcentages de fréquence cardiaque, de trucs de machin, j'ai fait « Oula, non !» Donc j'ai essayé de trouver un truc assez simple avec un peu de fractionné. Et puis j'ai fait mon premier semi qui s'est très bien passé. Je l'avais fait en 2h15, il me semble, où j'ai kiffé du début à la fin. Pas trop de douleur, donc vraiment bien. Enfin, je pense que je m'étais pas trop mal préparée. Et puis j'ai kiffé. Et du coup, un mois après, je faisais le semi de Poitiers. Et après, j'ai enchaîné. En fait, j'ai fait plein de courses.
Et à quel moment dans ce parcours qui est remarquable, tu décides à un moment donné de dire je vais aller sur le marathon de la Grande Muraille de Chine?
Je regardais. En fait, moi, j'adore voyager. Et si je peux allier voyage et course à pied, c'est encore mieux. Comme ça, c'est super. Et du coup, je regardais un peu les courses, les grandes courses dans le monde. Et je suis tombée sur cette course-là. Et j'ai un peu une fascination pour la Chine. Enfin, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans leur tradition. Enfin, voilà, c'est un pays qui me plaît. Et du coup, j'ai vu ce marathon-là et j'arrivais pas à me le sortir de la tête. Je faisais que d'y penser. Et puis, je me disais, vu mon parcours, bah, ça serait tellement un sacré challenge pour moi. Et du coup, bah, au final, ça serait me dire, OK, je peux le faire. Je peux le faire, je l'ai fait. Enfin, me dire, voilà ce que je peux accomplir, ce que mon corps peut accomplir. Après toutes les étapes par lesquelles je suis passée, ben, je peux aussi prétendre à ce type de course, avec la prépa qui va bien sûr, mais je peux y prétendre. Et du coup, quand j'ai commencé un peu à me projeter, je me dis, bon, bah, ça, enfin, c'est un gros projet, et puis ben, financièrement, il faut le financer. Et moi, ça ne me faisait pas peur, donc j'ai monté un petit dossier de sponsoring. Et bon, étant donné que je suis graphiste de base, j'ai essayé de faire un truc plutôt bien. Donc, j'ai pris, enfin, voilà, j'ai monté tout un dossier. Je suis allée taper à la porte de plein d'entreprises, j'ai pris plein de noms, mais j'ai aussi eu des oui. Et du coup, j'ai pu voilà, récolter l'argent nécessaire. Et en plus, bon, c'est là aussi où il a fallu faire un petit peu le deuil de ce projet-là. J'avais contacté une maison d'édition pour écrire un livre sur ce parcours-là, un peu dans la même veine que le livre de mon canapé à la course la plus dure du monde de Grégoire Chevignard. Je ne sais pas si vous avez déjà, si tu as
Si, moi
déjà
je l'ai
lu ce
lu.
livre.
J'ai lu
Voilà,
ce
donc
livre il y a
c'était.
longtemps en fait.
Voilà, et c'était un peu dans cet esprit-là, même si je suis tout à fait, enfin, j'ai pas le niveau qu'a ce monsieur, mais c'était un peu dans cette veine-là. Et donc j'ai contacté deux maisons d'édition, et la deuxième, elle me dit, je dis oui pour ce projet, et je vais même aller plus loin, c'est que je vais vous faire des avances de droits d'auteur pour vous aider à payer votre voyage.
D'accord.
Et donc super, donc on a signé les contrats d'édition et tout ça, et puis bah du coup tout s'est cassé la gueule avec le Covid. Voilà. Mais ça reste dans un coin de ma tête. Je me dis pourquoi pas sur différemment et pouvoir partager ça, mais là j'ai pas encore trouvé l'angle exact. Mais voilà, donc ça aurait pu être un très beau projet.
Oui, mais en fait, et c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est-à-dire que tu as un projet, alors je ne sais pas combien coûte, et si tu veux le dire ou pas,
Alors,
ça coûte combien un projet comme ça là?
si on, il y a plusieurs choses à prendre en compte, sachant que j'avais pris un peu. Alors, il y avait dans les lignes budgétaires, il y avait l'inscription à la course, en sachant que l'inscription à la course, où c'est très marketing, un peu mix course, agence de voyage, tu es obligé de rester une semaine sur place. Tu n'as pas le choix. Le package de base, il est à 1 500 euros, je crois, minimum. Si tu prends le truc, l'hôtel hyper loin, le truc, le machin, tu prends aucune excursion, rien, c'est 1 500 euros. Sachant que je vais pas partir à l'autre bout du monde toute seule. Donc, fois deux. Bon,
Boum.
après, voilà, fois deux. À ça, il faut rajouter le prix du visa pour aller en Chine et les prix de l'avion. Alors, l'avion, c'est pas la destination la plus chère, mais le visa, il y a un petit coût quand même. Donc voilà, donc ça, pareil, on fait fois deux à chaque fois. Ensuite, il y a tout le coût de la prépa physique, qui est du coup était toute ma, enfin, ma plus grosse source de dépenses. C'était toute la prépa physique sur un peu plus d'un an. Parce que du coup, vu mon niveau, sachant que quand je me suis lancée dans ce projet-là, je n'avais jamais terminé un marathon. Donc, il fallait. Enfin, je ne pouvais pas prendre que 4 mois. Non, il fallait un an parce qu'il y avait un autre marathon à inclure dans la prépa. Oui, on peut se dire que je suis complètement tarée de me lancer sur cette course sans avoir fini un marathon. Mais du coup, voilà, j'avais budgétisé ça comme ça. Et du coup, on est arrivé. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais on était sur du 6-7 000 euros. Voilà. Donc, sans faire des trucs extravagants. Mais voilà, c'était le coaching en fait qui coûtait le plus cher.
Parce
Et
que...
c'était, mais ce qui était, qui, mais ce qui permet aussi de pouvoir bien vivre la course et d'être dans les bonnes conditions. Donc, c'est ce qui fait la réussite du projet au final.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de dire qu'en fait, il y a des projets qui... comme ça paraissent inaccessibles ou impossibles à faire, mais que bah, finalement, moi, quand j'ai vu ton dossier de presse, bon, après, t'as ton métier te permet de le faire plus facilement. Tu dis, je ne peux pas, c'est pas d'agence de com, parce que je suis capable de le faire. Mais le fait de faire le dossier de presse, d'aller démarcher des sponsors, de dire, j'ai besoin d'avoir tant, de faire ce budget-là et tout, je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante, parce qu'il y en a plein qui auraient des projets, qui veulent faire des trucs à droite, à gauche, et qui se demandent comment les financer. J'ai certains invités qui se reconnaîtront, qui petit à petit vont chercher des sponsors aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, c'est une démarche, on dit, tu n'es pas une athlète professionnelle, mais dans la mise en place de la communication autour, c'était très pro, en fait, d'aller chercher ça et de rassembler une équipe vraiment d'une manière comme une athlète.
C'est ça, alors que je ne suis pas du tout une athlète.
Ouais. Mais en fait, c'est ça qui m'intéresse dans ton parcours, parce que c'est, tu sais, moi, mon rêve, je voulais être sportif quand j'étais gamin, et puis maintenant, c'est des sportifs pro à ma manière. Et c'est exactement ça, en fait, que tu décris. C'est-à-dire que sans être des athlètes, on dit on ne va pas gagner les médailles, on n'y va pas pour gagner le titre ou quoi que ce soit, mais on peut faire les choses d'une manière très professionnelle avec l'accompagnement, des gens qui nous aident, qui nous accompagnent. Tu as parlé de coach. Dans ton dossier, ceux qui sont intéressés par les noms verront les noms, parce que ton dossier, on le trouve sur ton site, donc il y a ton dossier de presse, on peut le voir. Ceux qui veulent le voir, je mettrai un lien. C'est vraiment le côté pro sans être une pro. Et je trouve que c'est remarquable. Ton dossier, en plus, il est magnifique, quoi. Quand tu arrives avec un sponsor,
tu vois ça. J'ai tout misé là-dessus. Non, mais en fait, je me dis... bon, après voilà, je suis graphiste, forcément que j'ai envie de faire un truc qui envoie, quoi. Ouais. Et en fait je me dis, si en fait ce qui parce que dans mon métier je suis en lien avec le sport et des dossiers de personnes, des athlètes qui cherchent des financements, j'en ai vu plein. Ouais. Et en fait tu vois, quand tu, enfin je critique pas du tout, hein, mais c'est juste dans les faits, entre un document Word où il y en a dans tous les sens, où on n'arrive pas bien à comprendre le cheminement, c'est pas, il y a pas de chapitre, il y a pas de, voilà, c'est pas vraiment relu, il y a des fautes de partout, les photos on voit pas grand chose, il y a pas de luminosité, mais en fait c'est pas vendeur. Et en fait faut essayer de se mettre à la place. Si on a un dossier plaisant à lire, ben déjà ça donne envie. Et on se dit que si le dossier est plaisant à lire, ben la enfin, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'était en échange de les mettre en avant sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet. Il y avait tout un échange de bons procédés, entre guillemets. Et du coup, si le dossier il est bien ficelé, ben c'est le gage aussi que la relation ensuite ben, va bien se passer dans le partenariat et de la mise en avant du partenaire. Donc c'était dans cette idée-là. Et du coup, là, j'ai pu réunir la somme qu'il fallait. Malheureusement, c'est pas allé au bout, mais c'est pas grave parce que je sais que c'est possible. Ouais. Et en fait, on se met beaucoup de freins en se disant que c'est inaccessible. En fait, si on tente pas, en fait, si on tente, enfin, qui ne tente rien n'a rien. C'est vrai, quoi. Enfin, c'est et au pire, ça marche pas. Et ben, c'est pas grave. On aura tenté. On sera allé au bout de la démarche, quoi.
Mais tu vois, il y a un truc qui est super intéressant là-dedans, parce que il y a beaucoup de gens qui critiquent. Les gens qui sont sur Internet, qui ont des sponsors sans avoir des grosses performances, on critique beaucoup ceux qui ont des comptes Instagram des fois en disant « Ouais, mais il y a des gens qui courent vite et qui n'ont pas d'argent, et puis des gens qui ne courent pas vite qui ont de l'argent. » Mais quand on voit les efforts, quand on voit ton dossier, quand on voit les efforts, la présentation, ce que tu proposes, bah, c'est logique qu'on ait envie de s'associer, parce qu'on sait que, on sait que sur la mise en avant, tu vas faire les efforts pour le faire. Et oui. Alors que tu as plein d'athlètes, quand on regarde leur compte Instagram, par exemple, le nombre d'athlètes, je regarde le compte Instagram, mais je me dis, mais c'est normal qu'il n'y ait aucun sponsor qui a envie d'aller les voir. Parce qu'on ne sait même pas qui c'est qui les sponsorise. Ils ne font pas les c'est retours, ça. On ne voit pas trop. Alors, je ne dis pas sans être des bannières publicitaires, mais il y a un équilibre, en fait.
C'est ça. Et en fait, et j'ai déjà eu cette discussion dans ma carrière professionnelle où, comme je te disais, j'étais en lien avec plein de sportifs de différents sports. Et j'ai eu cette discussion où ils ne comprennent pas comment une personne comme moi arrive. Je suis ambassadrice d'une marque de la marque Mizuno, que d'avoir des partenariats comme ça qui sont quand même assez sympas, ou d'avoir des financements sur des projets, alors que si déjà je finis la course, c'est déjà bien. Oui, mais en fait, ils comprennent pas qu'il y a la performance sportive, mais il y a la côté. Et en fait, un sportif, et c'est là où c'est pas simple, mais il faudrait qu'il voit son projet un peu comme un chef d'entreprise, comme un entrepreneur, et du coup d'avoir une vision un peu à 360 et d'essayer de mettre tout en œuvre pour aller chercher ça. Et c'est marrant parce que hier, dans un tout autre registre, j'ai discuté avec des musiciens, et les musiciens, c'est le même problème. C'est dans, et il y a beaucoup de similitudes entre des athlètes et des musiciens professionnels. Et au final, ils délaissent un peu leur communication. Alors c'est pas simple, hein, et c'est pas donné à tout le monde, mais en mettant toutes les chances de son côté, ça peut vraiment porter et avoir des retombées indirectes qui peuvent être assez conséquentes et importantes. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours simple à mettre en place. Et c'est vrai qu'un entraînement d'un sportif de haut niveau, ça prend beaucoup de temps. Il n'a pas forcément l'envie, l'énergie de partager tout, enfin de partager régulièrement sur les réseaux, parce qu'il y a quand même une certaine rigueur à avoir, voilà. Et ben, ça peut quand même porter préjudice, comme tu dis, si on comprend pas qui sont les partenaires, qui sont, ben, je me dis, en tant qu'entreprise, enfin, j'ai besoin d'un retour sur investissement. Donc, voilà.
Et c'est ça, on peut. Ce qui est important, c'est de se dire, bah oui, c'est vrai qu'il y a des sportifs, quand ils ont des bons résultats, les résultats devraient leur ramener. Et on pourrait dire que c'est un peu logique, hein, les résultats devraient leur ramener des sponsors, des trucs comme ça. Mais c'est tellement plus compliqué que ça pour les sponsors, en plus d'avoir des retombées, parce que même des gros, il y a plein d'athlètes qui amènent pas vraiment beaucoup de retombées à des marques, hein, ou alors à la marge, sur certains. C'est très compliqué, ce domaine-là. Et c'est vrai que toi, tu arrives, et moi, je peux le dire aussi, parce que toi, tu parles, toi, tu es Mizuno, moi, je suis Altra. Quand j'aurais jamais pensé qu'un jour, j'avais Nike et Adidas qui m'achèteraient de la pub sur le podcast. Alors, tu vois, que moi, je cours le marathon et que j'arriverai 10 000 ou 12 000e au marathon, très loin du. Le premier est arrivé que nous, on n'est pas encore partis. C'est ce que je dis
C'est ça.
souvent. J'ai regardé l'autre jour, c'était quoi? C'était Berlin. Je me suis fait
Ah.
la remarque, j'ai dit, tiens, Berlin, Kipchoge, quand il arrive, les premiers, le gros de la masse part quand que Kipchoge, il arrive. Et je m'étais fait la remarque en me disant, bah ouais, c'est ça, c'est marrant, mais c'est la réalité. Et parce que j'avais vu aussi, tu sais, des fois, des influenceurs qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes et qui n'ont pas des résultats. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le comprendre. Mais ce que tu viens de
Oui.
décrire, c'est exactement ça, en fait. C'est de dire aussi, bah, la démarche de dire je vais faire ça, je le monte, comment je fais ça au sourd. Et toi, tu as une vraie démarche vraiment qui est pro d'aller chercher là-dedans en disant ben voilà moi, ce que je peux vous apporter en visibilité, quoi.
Oui, après, pour le cas de Mizuno, ils ont une team d'athlètes de haut niveau et ils ont une team d'ambassadeurs qui sont des gens tout à fait lambda, comme moi, comme toi, enfin, voilà. Et en fait, c'est l'idée de Mizuno, c'était de se dire, il y a quelques années, ils avaient une image très élitiste, une marque qui s'adressait qu'à un certain type de coureurs, voilà. Et au final, ils ont voulu casser cette image pour dire que ils font des produits de qualité, que ça s'adresse à tous les types de coureurs, et c'est d'aller chercher aussi les profils des gens qui vont potentiellement acheter, le public qui veulent toucher, en fait, tout simplement. Et donc, il y a aussi cette réalité-là, c'est que ils vont s'adresser à la maman qui court un peu mais qui compose dans sa vie, à la personne qui a une vie un peu chargée, un peu voilà, et qui va pareil se défouler et qui va faire du sport un peu un rythme de vie. Enfin, il y a tous les types, en fait. Enfin, il y a différents types de profils et qui va coller à leurs différents types de clientèle possible, en fait, tout simplement. Et même si, alors moi, j'ai pas une grosse communauté, j'ai pas, voilà, mais j'en ai quand même un petit peu. Et au final, c'est aussi ça qu'ils vont chercher. Et puis en plus, enfin, j'ai une très belle relation avec Mizuno. J'ai aucune contrainte sur ce que je poste ou quoi. Et au final, je trouve que la plus belle pub que je peux leur faire, c'est vu que j'apprécie leurs produits, j'en suis convaincue. En fait, je les porte souvent. Et en fait, dans mes posts, quand je cours, quand je machin, en fait, on me voit tout le temps porter du Mizuno. Au final, c'est ça la plus belle. Il n'y a pas besoin. Parce qu'il y a différents types de partenariats. Des fois, c'est un peu plus orienté, pas se le cacher. Mais là, ce que je trouve ça très bien, c'est que j'ai toute la liberté que je peux avoir et je ne suis pas forcée à faire un poste ou quoi. Donc ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, Mizuno, je m'en souviens, quand ils m'ont contacté, on me dit, mais comment tu as fait pour être ambassadrice Mizuno? Ben, en fait, ils m'ont contacté sur Instagram. Je pense qu'ils cherchaient quelqu'un sur la région bordelaise. Ils voulaient pas prendre des trop gros comptes parce qu'il y a d'autres comptes running sur Bordeaux qui sont beaucoup plus importants que le mien. Mais c'était pas ce qu'ils cherchaient. Eux, ils voulaient plus aller dans la petite communauté où vraiment ben, c'est plus authentique au final.
Oui, et puis en fait, les marques, il faut dire aussi, elles cherchent des modèles que les gens, lesquels se reconnaissent
Exactement.
pour acheter des chaussures. Et ton modèle, ton parcours sportif, tes 35 kilos perdus, d'intégrer le sport comme ça dans ta vie et tout, pour quelqu'un qui dit, bah tiens, je voudrais faire comme Agathe, bah logiquement, on va dire comment tu as fait. Et quand tu recommandes un peu les choses, on peut dire que logiquement, tu as une force de prescription pour des gens qui te ressemblent. Et qui devrait faire
Exactement.
par toi, qui est très forte, qui est bien plus forte que des athlètes qui courent des fois bien plus vite, mais qui finalement sont paraissent inaccessibles pour beaucoup de gens en fait.
Exactement. Et c'est vrai que je conçois que pour certains, pour des athlètes de haut niveau, ils ne comprennent pas toujours. Mais voilà, après, c'est aussi à eux de savoir se vendre.
C'est un grand sujet, mais c'est vrai que puis ça fait polémique parce que des fois il y a des forums, il y a des trucs, on voit un peu les discussions, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est la chance qu'on a, qu'on peut le dire, hein, c'est qu'on a quand même des outils formidables et on peut avoir, dire, bah, il y a des projets et c'est intéressant de dire, bah, un projet avec le coût que ça représentait, la Chine, le voyage, d'avoir des entraîneurs comme tu l'as fait et tout, c'est possible. Hein, alors bien sûr, tu as mis beaucoup d'efforts, bien sûr, on pourra dire que tu as les compétences de base, mais on a tous, hein, en travaillant un petit peu, en regardant un petit peu, on peut tous faire des dossiers qui soient sur lesquels on réfléchisse, que ce soit plus qu'un dossier comme en Word en disant j'ai besoin de temps et puis donnez-moi ça, et puis voilà. Réfléchir
Exactement.
à ce qu'on peut apporter, c'est déjà important, quoi.
Et en plus, bon, alors après j'avais quelques contacts, mais au final qui m'ont pas tellement servi. Mais j'ai essayé d'aller légitimité aussi de trouver une légitimité pour mon projet. Donc j'ai eu un reportage de France 3 qui m'a suivi. J'ai aussi contacté l'équipe qui a fait un article sur moi. Et je me souviens. Justement, quand cet article est sorti sur l'équipe, donc qui expliquait mon projet de, donc j'étais pas encore annulé à ce moment-là le voyage, il n'y avait pas encore tout le problème du Covid, et il y avait quelqu'un qui avait mis en commentaire, ah ben c'est facile quand on a plein d'argent pour prendre des coachs et faire des projets comme ça. Mais en fait, c'était pas mon argent personnel, c'était l'argent des partenaires. Et oui, je suis allée chercher des partenaires. Et parce qu'aussi, je ne me sentais pas de demander de l'argent à ma communauté, parce qu'il y en a qui le font, qui font des cagnottes et tout ça. Moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Et je préférais, bah, parce qu'aussi, je travaille dans la communication, donc je préférais bah, aller m'adresser à des marques et faire un plan de com. Parce qu'en fait, c'est à chaque fois que je m'adressais à une marque, j'arrivais en rendez-vous avec un dossier personnalisé avec leur logo en disant voilà. Voilà ce qu'on peut mettre en place. J'avais fait des mises en situation sur mon t-shirt de course, mon truc, mon machin. Voilà ce que je vous propose, un vrai plan de com. Et du coup, ben voilà, ça m'a permis d'aller au bout du truc. Mais c'est vrai que faut faire la démarche, quoi.
Et quand tu te dis tout ça, tous ces efforts, mais il y a le sportif, il y a la préparation et tout, tu te dis quand même ce marathon de la Grande Muraille, alors je ne sais pas si un jour ou l'autre, ça sera faisable ou pas, mais tu te dis forcément qu'un jour, il faudrait qu'il y aille, quoi.
Bah, je sais qu'un jour j'irai en Chine, c'est sûr. Après, je ne sais pas si je ferai le marathon. Enfin, en fait, j'en sais rien à l'heure actuelle. Bah, parce que là, bon, bah, clairement, on ne peut pas y aller. Alors peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, ça va se débloquer et à voir. Après, bah, voilà, j'ai 32 ans. Pour l'instant, je n'ai pas d'enfant, mais je pense qu'un jour, ça arrivera. C'est pas prévu au programme pour le moment, mais dans quelques années, voilà. Donc je sais que ça sera peut-être plus compliqué de le faire là dans les années à venir. Aussi parce que, enfin, pour diverses raisons, Déjà, il y a les JO 2024 et en fait, moi, avec. Non, mais c'est un. Je n'ai pas du tout envie d'aller aux JO, mais c'est juste que dans mon travail, je suis en charge du partenariat JO dans mon entreprise et que du coup, un projet comme ça, je ne vais pas pouvoir partir 3 semaines une année de JO. Voilà.
C'est pas possible. Ça,
ça
c'est
va pas
sûr.
Être possible. À moins que. Et puis là, si ça se débloque en 2023, bah, ça sera trop juste. Je n'aurai pas. Alors, rien n'est impossible, mais bon, ça se prépare quand même en amont.
Ouais.
À mon avis, ça me paraît compliqué. Après 2024, bah, je pense que les choses dans la vie feront que. Enfin, j'en sais rien, mais ça sera, à mon avis, pas le moment opportun. Donc, je ne sais pas. Mais je sais qu'un marathon, ça se court. Enfin, on peut le faire à 45 ans, à 50 ans. Enfin, il n'y a pas de prescription. C'est pas parce que je vais prendre de l'âge que ça me sera interdit. Je le sais bien. Mais du coup, je verrai parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai d'autres envies. J'en sais rien, je sais pas. Donc, voilà, je me pose pas trop de questions pour le moment et je fais d'autres projets. Je fais des triathlons en attendant.
Oh, tu sais qu'un marathon, ça se court très tardivement. J'ai croisé ce week-end un monsieur qui a fait le marathon du Médoc cette année. Il a 80 ans. Donc,
oui, d'ailleurs, je crois que j'avais lu que un peu le meilleur moment, un peu la maturité du marathon, alors j'ai plus l'âge exact en tête, mais pour une femme, c'était après 40 ans, il me semble.
Mais en plus, je pense que ça dépend aussi beaucoup à quel âge tu commences, ce que tu
ah ben
fais,
oui.
Quelle est ton hygiène de vie, ce que j'ai appelé il n'y a pas longtemps aussi un peu les handicaps qu'on a dans sa vie, mais qui n'est pas un handicap au sens physique ou quoi, mais c'est bah, les contraintes de travail, comme tu peux le dire, le contraintes de temps. Il y a plein de choses qui, à un moment donné, il y a des trucs qui s'alignent et puis il y a des trucs qui ne s'alignent pas. Parce que c'est comme finalement le triathlon, quoi. Préparer un half, je sais pas combien d'heures d'entraînement tu avais par semaine.
Ah, c'était plus de 6 heures. Hein.
Bon.
Ouais, même plus. Hein.
Et tu te dis maintenant que tu vas aller sur le complet?
Non. Non. Non, parce que c'est un sacrifice quand même. Et je pense que pour un full Ironman, c'est une décision que je peux pas prendre seule, qu'il faut que je prenne avec mon compagnon. Et là, je sais que, alors, je n'ai pas d'enfant, je ne parle même pas quand on a des enfants, mais déjà, je sais que c'était compliqué à faire entrer les entraînements dans une semaine de travail, une semaine, avec tous les entraînements et tout ça, il y avait des moments où c'était un peu à s'arracher les cheveux pour foutre les, enfin pour pouvoir caser toutes les séances. Un full, je n'imagine même pas. Après, il ne faut jamais dire jamais, mais pour le moment, ça ne m'attire pas.
Tu vois, là, même si tu avais tes partenaires de l'époque qui disent tiens, finalement, le livre, on va le faire sur, non pas sur la muraille de film, mais sur un triathlon, tu vois, sur un. Avec un gros truc et tout, tu vois, tu pourrais pas, ça te dit pas comment on fait pour aligner?
Oui, après, moi, tu sais, quand on me lance un truc, un défi, vrai. À moins que tu aies un éditeur là-dessus qui veut signer. Non, mais après, c'est vrai que ça demanderait quand même un peu de. Il faut prendre un peu de temps quand même pour prendre la décision, je pense.
Mais tu sais.
Un coup de tête.
Je pense en plus que les dates, tu n'as pas vraiment de date limite non plus, y compris d'ailleurs sur des grandes distances comme ça, parce que là, tu avais les championnats du monde à Hawaï
oui.
de triathlon. Les derniers, tu as des finishers dans les Ironman, ils ont 80 ans, plus de 70 ans chez les femmes, donc tu en trouves. Hein. Alors, c'est sûr que tu as des créneaux. Il y a des moments où des fois, il faut mettre des croix dessus. On dit, y a des trucs qui sont possibles, des trucs qui ne sont plus possibles du tout. Moi, c'était la question aussi quand ma fille était née, de me dire est-ce que je peux préparer un marathon avec ma fille qui fait passer nuit. Et ben,
ouais.
À un moment, oui, c'est faisable. C'est faisable, voilà. C'est à un moment donné, c'est faisable. Et j'ai
en
même...
fait, il faut juste être prêt à faire certains sacrifices et être en accord avec ça, quoi.
Ouais, et puis se rendre compte qu'en fait, il y a une réflexion qui change un petit peu sur la manière de voir les choses. Je me rends compte que peut-être quand elle était toute petite, eh ben, elle dormait tellement que j'avais peut-être plus de temps qu'à d'autres périodes, tu vois. Mais
oui.
c'est vrai que on a chacun nos rythmes, entre ceux qui ont des transports, ceux qui. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien cette notion de dire quand on regarde les autres, on les voit faire des choses. on se dit, ouais, c'est bien, ou alors il a de la chance, tu vois, comme la personne qui met une remarque et elle a de l'argent. Oui. Elle ne sait pas, en fait. En fait, on ne sait pas la vie des gens, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils n'ont pas, etc. Et d'être capable de faire, des fois, c'est un exploit incroyable parce qu'on n'a pas le temps ou on n'a pas les moyens ou on n'a pas ça ou ça ou ça pour arriver à le faire. Et finalement, par rapport, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais tu n'as fait qu'en tant que ça seulement ?» Et c'est malvenu, ces genres de critiques, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, de tout ce qu'il a fallu faire pour faire.
Et en plus, tu vois, quand je me suis lancée dans ce projet de marathon de la Muraille de Chine, où du coup, j'avais quand même beaucoup d'entraînement par semaine, je m'entraînais, je crois, 5 jours sur 7. Ouais. J'avais quand même en plus, c'était pas à côté de chez moi, donc je me rajoutais de la route. Mmh. Enfin bon, il y avait une logistique derrière ça qui était parfois un peu complexe au niveau de la charge mentale qui n'était pas simple à gérer. Et à côté de ça, à ce moment-là, je travaillais beaucoup. Dans mon ancien boulot, je faisais du 50 heures semaine, je travaillais le week-end, et pourtant j'arrivais à concilier tout. Donc je me dis bon, alors c'est sûr qu'il faut pas que je me mette de barrières. En fait, notre plus grand ennemi, c'est de se mettre des barrières. Et en fait, si on a vraiment envie de faire quelque chose, peut-être que ça sera pas possible exactement comme on le veut, mais si on veut, on peut trouver des solutions. Trouver des solutions. Après, il faut prioriser, on peut pas tout faire. Après, c'est sûr que les gens me diront, bah oui, mais t'as pas d'enfant. Oui, c'est vrai, j'ai pas d'enfant, mais j'avais une vie professionnelle qui était très très prenante et avec beaucoup de fatigue accumulée aussi. Donc, et en plus, alors certes, j'ai pas un enfant qui me réveille la nuit, mais je me réveille moi-même parce que je suis somnambule et que je parle la nuit, donc j'ai pas des nuits non plus toujours très 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 reposantes. Mais bon, voilà. C'est juste que s'il y a une chose que je peux dire, c'est quand on a vraiment envie de quelque chose, on arrive toujours à mettre en place ce qu'on veut pour y arriver. Enfin, et si on se donne des vrais moyens pour y arriver, il n'y a pas de raison. Et même si pour une raison X ou Y, ça se fait pas, parce que moi, c'était mon cas, ça s'est pas fait, c'est pas grave parce que je sais que je l'ai déjà fait.
Ouais.
Et du coup, je sais que je peux le refaire et que c'est possible. Et ça, au final, ça change tout dans sa confiance en soi, dans sa. Après. Ça n'a pas été en vain parce que avant que ça s'annule, j'avais quand même fait un an d'entraînement. Où pendant ces un an, j'ai battu mon record sur 10 km, sur semi, j'ai fini mon premier marathon dans la douleur, mais c'était assez épique, mais je l'ai fini. Et au final, même cette course-là qui était dans des conditions très compliquées à plusieurs niveaux, je regrette pas que ce soit passé dans ces conditions-là où j'ai. Toutes les mauvaises conditions étaient toutes alignées, clairement. Mmh. Pour la faire courte, c'était un marathon nocturne, c'est le marathon de Bilbao, avec un parcours merdique. Je suis désolée, je ne conseille pas ce marathon. Avec un parcours merdique, il a plu des cordes du début à la fin, pendant toute la durée de la course, donc aucun public. Et en fait, très peu d'inscrits, enfin beaucoup d'inscrits sur le 10 km et le semi, où on a fait un départ en commun. Et passer le semi, quasiment plus personne sur le marathon, donc à faire une course seule, dans la nuit de Bilbao, sous des trompes d'eau. J'avais mes règles. Ça a été une merde. J'avais mon tampon qui prenait l'eau. Enfin, bref, je passe les détails, mais c'était une merde du début à la fin. J'ai eu des moments, gros passage à vide, où j'arrivais plus à courir. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Mais enfin, je pense que bon, tout le monde est déjà passé par cet état-là en marathon, mais là, j'étais vraiment au plus bas. Et quand 6 km avant l'arrivée, tu te fais rattraper par la voiture balai qui t'explique dans un espagnol, anglais, tu sais pas trop quoi, que soit tu t'arrêtes là au bord du trottoir, soit tu continues, mais que tu sens la conviction que la ligne d'arrivée soit encore ouverte au moment où tu la passes. Et là, ton cerveau qui switch, mais vraiment, c'est vraiment l'image que j'ai, qui switch, tu te dis, mais j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas fait tout ça pour ça. Et là, ton cerveau qui switch, où je me mets à courir. Alors que 10 km avant, j'étais au fin fond du saut, au fond du saut, pire que le saut, pire qu'au fond du saut. Et là, ton cerveau qui réfléchit plus. Hop, tu pars. Alors, j'avais l'impression de courir vite. Je pense pas que je courais si vite que ça. Mais j'avais l'impression de, comparer à l'allure moyenne que j'avais eue les derniers kilomètres, je courais plutôt plus vite. Ton cerveau qui se met en mode on réfléchit plus, on y va. Et au final, je passe la ligne d'arrivée, seul au monde, avec la ligne d'arrivée qui était en train d'être démontée, mais le temps quand même qui était affiché, parce que j'ai bien été dans l'enregistrement des temps. Et voilà, il était plus de minuit et demi, sous la pluie, seul. Voilà, c'est l'image de mon marathon. Je fais ouh! Mais je suis marathonienne et même si c'était difficile, quand je suis face à des difficultés dans ma vie tous les jours, dans mon boulot, je me dis, mais attends, t'as vécu des choses bien plus dures, bien plus difficiles, donc t'inquiète pas, tu vas y arriver. Là, t'es au kilomètre 25 ou t'étais au plus bas, mais t'inquiète, au kilomètre 35, t'es à fond. Donc, donc et en fait, ça me sert beaucoup et ça m'a beaucoup appris.
Mais c'est ça qui est intéressant. C'est aussi hein, c'est le dans ces types de parcours hein, de les comparaisons, comment tu peux transférer en fait ce que tu as vécu dans le sport, comment tu peux le transférer dans ta vie de tous les jours.
C'est ça. Ah oui, mais ça a beaucoup changé de choses.
Ouais, et puis en tout cas, ça t'a pas dégoûté de courir.
Non. Hein. Alors, j'ai mis un moment parce que j'ai plutôt bien récupéré, donc j'étais plutôt bien préparée, j'ai eu très peu de courbatures. Après. Par contre, j'ai tellement puisé mentalement que j'ai mis un peu de temps à repartir. J'ai mis plus d'un mois où je voulais pas courir. Et après, je suis repartie. Mais ouais, j'ai comme bien puisé au fond de mes ressources.
T'as fait quoi? Deux marathons? Attends, je suis en train de chercher. Combien, une dizaine de semi-marathons, c'est ça?
Alors, des semis, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Plus d'une vingtaine, je pense, de semis. Ouais. Marathon, donc j'en ai fait deux. J'ai fait le marathon de Bilbao et le marathon de Paris. Je compte pas le marathon de La Rochelle parce que j'ai abandonné avant la fin. Et après, j'ai fait du triathlon. J'ai fait un S, un M, un L. Et après j'ai fait dans les semis que j'ai fait des très belles courses en Europe. J'ai fait des courses, j'ai fait un semi à Amsterdam, à Tromsø en Norvège, ça c'était encore une grande aventure. Je suis partie seule je sais pas si les gens visualisent où est Tromsø, mais c'est au nord 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 de la Norvège.
Je vais te dire, on a même quelqu'un qui habite en Norvège, hein. On fait un petit coucou à Diane qui est en Norvège. Donc, on va raconter l'histoire. Vas-y, raconte l'histoire.
C'est un magnifique pays, la Norvège. Alors, je ne suis pas restée très longtemps, mais en gros, dans ma prépa pour le marathon de Bilbao et pour la marathon de la Grande Muraille de Chine, je voulais me mettre, on avait travaillé avec le prépa mental, de me mettre dans des situations où je ne maîtrise rien, enfin, où je ne suis pas dans mon environnement pour sortir,
classique,
en fait, c'est dans mon environnement classique, pour vraiment sortir de ma zone de confort et me mettre en difficulté. Parce que quand je serai en Chine, ça aurait été ça. J'aurais été clairement en difficulté dans un pays où je parle pas la langue, où t'es loin de tout. Voilà. Donc, c'était un peu l'idée. Et donc, du coup, en fait, Mizuno est partenaire de la Midnight Sun Marathon à Tromsø. Et du coup, j'ai contacté Mizuno. Je dis voilà, je suis intéressée par cette course. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un dossard? Et du coup, ils m'ont dit pas de problème, tu auras le dossard. Et on a vu avec Mizuno Norvège, Mizuno France te paye la première nuit et Mizuno Norvège te paye la deuxième nuit avec le dossard. Et moi, je me payais l'avion. Donc, super deal. Super. Et c'est aussi pour ça que c'est cool d'avoir un partenaire comme ça, parce que c'est génial de dire, j'ai un super projet. Alors, ils ne pouvaient pas m'aider financièrement. Ils ne pouvaient pas me donner de l'argent, Mizuno. Mais du coup, ils m'ont aidé comme ça, en fait, pour ma prépa. Et donc, c'était super. Et d'ailleurs, Marathon de Bilbao, j'ai aussi eu le dossard par le biais de Mizuno. Je crois qu'ils sont toujours partenaires de ce marathon-là. Et du coup, je suis partie. Donc, en France, c'était au mois de juin. C'était la canicule. Et donc je suis partie, je suis arrivée là-bas, il y avait de la neige de partout, il faisait 5 degrés, j'ai fait ouh, bon.
Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est la Laponie norvégienne, quoi. C'est le...
Alors c'est au-dessus de la Laponie.
Ouais,
c'est au-dessus de la Laponie, au-dessus du cercle polaire. Et en fait, c'est donc le Midnight Sun. Et donc le Midnight Sun, c'est le jour le plus long de l'année. Et donc il ne fait pas nuit de toute la journée, en fait. Et le départ est. À quelque chose comme 22 heures, mais en plein jour. du coup. Et donc, la course avait lieu, donc c'était le samedi à 22h. Donc, moi, j'ai débarqué le. Je suis arrivée le vendredi, j'avais fait Bordeaux-Oslo, Oslo-Tromso. J'arrive à Tromso, je prends mon petit bus pour aller dans le centre-ville de Tromso. C'est pas hyper grand, hein, donc il n'y a pas beaucoup à faire. Et donc, là, déjà, c'est un peu. Enfin, c'est un autre univers. C'était en plus, il faisait pas très beau quand j'y étais, mais du coup, ça a rajouté un côté mystique très fort. Et du coup, voilà, le samedi, alors bon, je pouvais pas rester dans ma chambre d'hôtel toute la journée, donc j'ai quand même un peu allé voir, j'ai un peu marché, j'ai peut-être pas dû autant marcher, mais j'ai quand même un peu marché pour aller visiter un peu la ville. Je m'étais même pris une activité bateau. Donc je suis partie toute seule, hein, et donc je m'étais pris quitte à être là-bas, ben j'en profite quoi. Donc
ah oui.
Je me suis pris une petite activité bateau, enfin bon, je me suis fait plaisir. Il y a le marathon qui partait plus tôt, donc j'ai vu passer les marathoniens. Et puis ben, après voilà, le truc c'est qu'il faisait quand même bien froid, il y avait des pluies givrantes, donc je suis allée me chercher m'acheter une petite paire de gants et un petit bandeau pour mes oreilles parce que je le sentais pas très bien l'histoire. Et puis voilà, j'ai pris le départ à 22h, j'ai fait ma course au milieu du fjord norvégien à Tromsø, c'était trop cool. Le parcours était plein de faux plats, plein de donc pas très roulant. Pas du tout même. Et puis l'erreur, bah après on apprend, hein, mais c'est que bah, j'ai pas l'habitude de courir à 22h.
Ouais.
Et le corps, il comprend pas. Et du coup, l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis pas entraînée à 22h avant pour justement habituer mon corps à courir. Et du coup, mon corps, il comprenait pas trop pourquoi je m'activais autant à cette heure-là. Donc, j'ai un peu peiné à faire ce semi-marathon. Mais voilà, je l'ai fait, je l'ai fini, je suis arrivée, il devait être minuit et demi, un truc comme ça, minuit et demi. Il faisait encore grand jour, c'est très perturbant. Hein. Et voilà, j'ai fait ma course et je suis repartie, donc je suis arrivée à minuit et demi dans la nuit de samedi à dimanche et j'ai repris l'avion le dimanche. Donc c'était un week-end express, mais très enrichissant comme expérience.
Mais c'est intéressant d'ailleurs ce que tu dis pour ceux qui ne le savent pas, mais ceux qui courent la nuit. Moi j'ai fait des trails nocturnes. Et on avait des départs à 20h, 21h. Je crois que c'est les trails où j'ai eu le plus de mal à savoir quoi manger, comment manger, à quel moment être bien, etc. Parce que c'est vraiment pas habituel. Et là, je sors de 24h où la nuit s'est passée assez bien. Tu vois, à la fin, je me dis, tiens, j'ai appris des trucs. Mais j'ai mes deux, trois premières courses de nuit. Autant j'ai pris beaucoup de plaisir sur courir de nuit, autant la préparation avant. C'est vrai que c'est pas habituel et notamment savoir à quel moment manger, comment manger, ouais. C'est pas facile.
Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut un peu l'anticiper avant. Et bon, là, je l'avais pas fait. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait me dire après que pour la Chine, vu que le départ est très tôt le matin, de me dire ok, ben, faudra que je cours en condition à l'heure du départ. Me lever parce qu'en fait il y avait pour se rendre sur le départ de la course, il y avait un trajet entre l'hôtel et le départ de la course. En fait, on était logé à Pékin, mais le départ de la course devait se faire à banlieue très très éloignée de Pékin. Ouais. Donc il y avait un temps de trajet et du coup je m'étais dit suite à cette course à Tromsø, je me suis dit ok, bon, c'était cool, je suis allée en Norvège, c'était super, qu'est-ce que j'en retiens pour ma course en Chine, c'est que bon, bah, partir à l'étranger, même si, bon, alors ils parlent très bien anglais en Norvège, moi en Chine, je pense, mais en tout cas, je me suis très bien débrouillée. J'ai pu me nourrir, arriver, partir, même si j'ai pas un niveau exceptionnel d'anglais, je me débrouille quand même. Donc je me dis, bon, ok, je peux survivre dans un pays à l'étranger seul. Et puis, bah, me dire, ok, bah, faudra que j'anticipe, ça veut dire. Me lever aux heures où je serais censée me lever le jour de la course pour anticiper justement quand manger, combien de temps avant, quoi manger au moment de partir, pendant la course, enfin voilà, caler tout ça en fait.
Ouais, l'entraînement, c'est vrai, auquel on pense pas forcément toujours quand on a des horaires décalés, mais c'est important hein, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, des fois, il y a des. Moi, j'aime bien m'entraîner tôt le matin. Mais je crois que je n'ai aucune départ de course qui départ aussi tôt que moi, je cours le matin. Et même des fois, tu sais, des départs de course à 10h, 11h dans la matinée, ça me perturbe beaucoup. Et c'est parce que moi, en fait, je n'ai pas l'habitude et je sais que je dois prendre l'habitude. Mais voilà, ça fait partie des conseils importants. Toi qui aimes voyager comme ça, il y a des trucs que tu as repérés, d'autres courses, tu vois. Tu te dis, bon, la Chine, pour l'instant, on ne sait pas. Mais tu te dis, il y a d'autres courses que j'aimerais bien aller faire quelque part en Europe ou en France ou dans le monde.
Alors, il y a une course qui m'intrigue beaucoup, qui me donne envie autant qu'elle me fait peur, qui me trotte un peu dans la tête, mais je me dis, je sais clairement que j'ai pas le niveau pour la faire, mais j'avais pas non plus forcément le niveau pour le marathon de Chine, et si je mets en ordre les choses, j'aurai le niveau. Mais je sais pas en fait si je kifferais faire ça parce que c'est de l'ultra trail et que j'en fais pas encore trop. Je fais du trail, mais j'ai pas fait des distances plus d'un marathon au final.
Ouais.
Mais c'est vrai que, alors ça peut paraître bateau parce qu'au final ça sort beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en même temps c'est vrai que ça m'attire aussi. C'est vrai que le Half Marathon des Sables me plaît un peu parce que vraiment en aventure on est clairement dedans et que j'aime bien les trucs un peu pas extrêmes mais où vraiment tu sors vraiment de ta zone de confort, mais en même temps je sais pas si je me dis pas que c'est pas que j'en serais pas capable, mais est-ce que j'en aurais vraiment envie parce que je connais pas encore le, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je connais pas en fait les courses très longue distance et du coup je me dis ok, si je fais ça, est-ce que c'est vraiment... En fait, avant de me dire « Ok, je pars sur une course comme ça », faudrait, ce qui serait bien, hein, faire d'autres courses longue distance avant pour me dire « Ok, je prends du plaisir à faire ça parce que je ne vais pas me lancer dans un truc si je ne prends pas de plaisir. » Donc, ça me trotte dans un coin de la tête parce qu'en plus, ils ont sorti... ils en ont deux qui est pas mal. Ils en ont sorti un en Jordanie, à Petra. Et dans le désert au Pérou, et celui du Pérou c'est vraiment partir loin mais la Jordanie aussi ça me plairait, mais voilà, c'est vrai que c'est moi, c'est l'idée aussi d'allier voyage et course qui me plaît.
Et puis en plus là on a vu il y en a eu un jeudi, on enregistre le 7 octobre donc c'était quand, la semaine dernière il y en avait un,
ouais, et mais ça a été tout chamboulé. Ils n'ont pas pu faire les bivouacs, ils n'ont pas pu avoir la course, l'esprit aventure, je pense, comme ils auraient aimé venir chercher, quoi.
Mais c'est vrai que c'est parti. Et puis tu sais, j'en ai discuté. Alors j'avais reçu le médecin du marathon des sables dans Sport et Nutrition, puis j'ai discuté avec plusieurs personnes qui l'ont fait, qui m'ont dit c'est vraiment une gestion de course qui est vraiment totalement différente par rapport au marathon, par rapport. Alors c'est sûr que la grande étape, par exemple sur le marathon des sables en lui-même, elle est très longue. Mais ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il y a des personnes même. Alors toi, tu parlais d'âge et en disant il n'y a pas vraiment de limite d'âge parce que je crois que ça monte à 80 ans hein, le participant le plus âgé qu'il avait fait. Ce qui veut dire bon, il y a tu vois ceux qui courent vite, mais en fait tu vois. Il y a plein de gens qui le font vraiment beaucoup plus doucement, etc.
Mais je crois que l'allure moyenne, c'est de l'ordre de 3-4 km, 4 km heure, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est pas énorme.
Et après, c'est vrai que la vraie question, c'est vrai que c'est une question qui est de dire est-ce que je veux courir aussi long, ou courir, marcher, bouger aussi longtemps, en fait, et passer autant de temps à bouger en plein soleil, ça, je pense que c'est une vraie question à se poser, en fait.
Alors, je vais dire ça, mais c'est vraiment sans aucune prétention ni rien. Je pense que j'en suis tout à fait capable si je mets l'entraînement pour, il n'y a pas de secret, hein, si je m'entraîne pour, ben, je serai tout à fait capable. Mais la question, c'est est-ce que j'en aurai vraiment envie? Est-ce que je vais vraiment en prendre du plaisir? C'est plutôt ça, en fait, que je me pose, parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux et c'est vrai que ils ont une grosse communication sur cette course-là, donc où on voit plein de gens, des gens connus, des gens qu'on suit, qui y vont, qui sont invités, donc bah, forcément ça donne envie et c'est l'idée, hein, clairement la marque elle joue là-dessus, de donner envie de faire ce, en disant que ça peut être accessible, mais du coup je me positionne en me disant ok, sauf que ne connaissant pas vraiment l'ultra trail, je ne sais pas si c'est quelque chose dans lequel je prendrais du plaisir. Mais voilà, ça peut être oui, ça peut être non, j'en sais rien. Faut... C'est à tenter, à aller tester.
Mais tu vois, ce que je trouve qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est vrai que si tu te sens que tu veux le faire, quand tu as l'étincelle, en fait, moi c'est ce que j'appelle l'étincelle,
Oui, c'est ça.
après tu vas mettre en forme les choses pour te dire bah, est-ce que je peux me préparer, comment je peux me préparer, qu'est-ce que je dois faire pour me préparer, et puis tu vas te rendre compte que oui, tu dois faire ça ou telle chose, et que c'est possible. Parce que honnêtement, quand on regarde un petit peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, alors qu'elles nous semblaient impossibles.
Exactement.
Si tu regardes ton parcours en 2015, quand tu faisais 35 kilos de plus, je pense que tout ce que tu as fait derrière était totalement impossible et tu n'aurais jamais
Exactement.
imaginé pouvoir le faire.
Ah bah si tu m'avais dit en 2016 que j'allais finir un Alpha Ironman, je t'aurais dit mais t'es malade. C'est pas possible. Et bah au final, si. Donc après bon ben bah, faut ça se fait pas en un claquement de doigts, il y a des étapes à passer. Voilà, après c'est que j'ai parfois peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs. C'est vrai que je me suis inscrite sur un Alpha Ironman. Je l'ai fait en juillet. Ça faisait que depuis septembre que j'avais commencé à faire du triathlon. Ça peut paraître trop court pour certains. C'est sûr, j'avais pas forcément beaucoup d'expérience en triathlon, mais c'est ce qui me fait vivre aussi et de me challenger, de me dire ok, j'ai besoin d'aller justement dans cette recherche de ok, je veux clairement sortir de ma zone de confort et je veux aller sur des distances qui me font rêver, quoi. Dire ok, ça, je trouve ça dingue. Ok, mais ben, je veux le faire. Donc après, bon, ben, des fois, ça a été un peu rapide, peut-être, mais non, mais je regrette pas parce que quand je me suis blessée sur le marathon de La Rochelle, où ça faisait à peine un an que je courais, où j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs de débutant, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais au final, ça m'a permis de me dire, ok, bah, si je fais quelque chose dans un projet un peu ambitieux, il faut que je sois accompagnée pour pas faire n'importe quoi. Ça m'a permis d'apprendre mon corps, parce qu'après, il y a eu une rééducation qui a été un peu longue, parce qu'en fait, je me suis fait une tendinite du long fibulaire à chaque jambe. Je me suis vraiment bien blessée, et ça a mis du temps à revenir parce que j'ai un hallux valgus à un de mes pieds, c'est du coup l'oignon. Enfin, j'ai un pied qui est déformé et du coup, mais j'ai au lieu d'avoir 3 points d'appui sur mon pied, j'en avais plus que deux. Et du coup, ça a amplifié mon inflammation du tendon. Et du coup, il a fallu changer ma façon de courir parce que j'avais une attaque talon. Donc, on a changé ma façon de courir pour avoir une attaque médio-pied. Et ça a été long. Un apprentissage long, mais ça m'a permis justement d'avoir cet apprentissage. Si je m'étais pas blessée, j'aurais pas eu cette démarche-là. Donc, bah voilà, finalement, là, c'est pas la défaite, c'est le fait de pas réussir. Ben, c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage et ça fera que la prochaine fois, on fera mieux, autrement, avec plus de bagages pour affronter notre défi, quoi. Donc, il faut vraiment garder ça en tête et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de tomber quand ils se lancent dans un projet. Mais c'est pas grave de tomber. C'est un apprentissage.
Je crois que tous les parents, dont moi je fais partie, quand on regarde nos enfants, on se rend compte que à combien de fois ils tombent avant de se relever.
Et c'est ça?
Mais j'ai dit un truc un jour, j'ai dit, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est programmé pour avancer, pour progresser. Et les enfants sont un modèle parce que, ils savent qu'un jour ou l'autre, ils vont marcher. De toute façon, ils voient tout le monde marcher, donc ils savent qu'ils vont le faire. Il y a un truc qu'on ne sait pas dans le sport, c'est qu'en fait, on ne sait pas qu'on peut le faire. Et c'est ça qui est difficile des fois de se dire qu'on faut qu'on arrive à se persuader qu'on est capable de le faire. Moi, je sais qu'il y a des fois, je me suis dit, mais je ne serais pas capable de faire telle ou telle chose. Et tous ceux qui ont écouté les débuts du podcast dans le marathon, je me dis, mais je ne vais jamais arriver à courir un marathon, ce n'est pas possible. Et je dis ça avec un grand sourire, parce que la semaine dernière, j'ai couru 136 bornes pendant mon 24 heures. Et en pleine nuit, quand j'ai passé la barrière des 100, enfin, le moment où je passe la barrière des 42, puis après, au moment où je passe la barrière des 80, mais tiens, là, tu as fait x2. Là-bas, le moment des 100, je dis tiens. Et puis après, je passe 120, je dis ah, tu as fait x3. Et je dis punaise, à une époque, c'était inimaginable. Mais
C'est
je n'avais
ça.
pas la perspective que c'était possible de le faire. Je ne savais même pas que ça existait en plus. Tu vois, c'était carrément pire que ça. Et le truc, c'est qu'il faut juste se dire que celui qui court un marathon maintenant, bah, il s'est entraîné pour et qu'il a peut-être passé plein d'étapes et qu'il y a plein de choses d'entraînement qu'on voit pas, mais
Exactement.
qu'il faut le faire.
Et d'ailleurs, c'était l'objet de ce livre que je voulais écrire sur ma course en Chine. C'était pas tellement enfin, bien évidemment, parler de la course, mais parler de tout le cheminement pour y arriver au final. Parce qu'on passe par plein d'étapes. Il y a des moments où j'étais au fond du seau, où j'étais démotivée, voilà, où je me dis que j'y arriverai pas. Mais c'est normal d'avoir ces pensées-là. Mais le tout, c'est de se dire, de se remettre dans le truc, de se dire, OK, c'était qu'une passade, on se remotive, on remet en place les choses pour que ça le fasse et tout. Et au final, c'est tout ce cheminement-là qui est intéressant. La course, bien évidemment, c'est un peu l'apothéose, mais c'est tout le chemin parcouru avant qui est intéressant.
J'ai une question, tu vois, quand même. Alors, ce qui est intéressant, quand tu prépares la Chine, tu as eu des doutes et tout. Quand tu as des sponsors comme ça, tu sais que tu as investi du temps, que tu as de l'argent, que tu as été pour financer tout ça, tu te dis, j'ai le droit d'abandonner ou pas?
À ce moment-là, je savais que j'ai jamais eu l'idée d'abandonner. Et que si j'abandonnais, c'était parce que je m'étais blessée ou que vraiment je pouvais pas. C'était vraiment contre mon gré. Enfin, contre mon gré. Que c'était autre chose, quoi. Mais moi, je suis quelqu'un qui abandonne pas. Enfin, j'espère pas. Alors, j'avais abandonné Alors, après, je suis pas non plus débile dans le sens où. Par exemple, dans le marathon de La Rochelle, quand au bout du 22e kilomètre, ça fait 15 kilomètres que je souffre, que j'en pleure, que je suis en train de pleurer en courant, je suis aussi être lucide. À un moment donné, bon, là, faut s'arrêter, je vais pas faire 21 kilomètres de plus, là, c'est pas possible. Donc, y a aussi une lucidité à avoir. Mais je savais que j'irais au bout, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, à un moment donné, parce que ça se passait un peu moins bien avec mon coach, humainement, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, il reste 6 mois, t'y vas, c'est pas grave, on y va. La prépa, ça porte ses fruits quand même. Il y a un petit décalage humainement, mais allez, c'est pas grave, on y va, on fait avec. On va essayer de voir si on peut ajuster ça. Mais bon, au final, ça s'est pas forcément très bien fini d'ailleurs. Mais bon, ça c'est autre chose, parce que le fait de qu'il y ait la course qui s'annule, ça a posé d'autres questions, parce que j'étais engagée sur un certain nombre de mois d'accompagnement.
Oui.
Sauf que en fait, ce qui s'est passé, alors je regrette pas, mais j'ai quand même un peu perdu des plumes dans l'histoire, c'est que à l'instant où tout s'est annulé, j'avais perçu que même pas un quart du montant que je devais recevoir.
Ouais.
Sauf que j'avais déjà engagé plus d'un an d'entraînement.
Ouais.
Donc j'avais déjà engagé de l'argent, pas mal. J'avais commencé à payer tout pour la Chine, mais ça, j'ai pu me faire 100% rembourser. Donc, tout ce qui est dossard de course, hôtel réservé. Et après, on avait prévu de prolonger, parce que quitter Transchine, autant en profiter. On avait prévu de traverser la Chine et tout ça. Alors ça c'était en dehors, c'était du surplus, c'était notre kiff à nous en plus. Mais tout ça j'avais réservé, je crois que j'avais réservé pour 7 000 euros, un truc comme ça, parce qu'en fait y a mon copain qui venait, mais il y avait aussi mes parents et mon frère.
Ouais.
Et du coup, on partait à 5. Donc, j'avais réservé 5 billets d'avion, 5 fois des hôtels avec une agence de voyage. Et ça, alors, c'était en plus, c'était du plus. Mais comme quoi, quand on a vraiment une idée en tête et on peut y aller, c'est que j'avais même contacté une agence de voyage en Chine. Donc, je négociais en anglais. On échangeait en anglais. Je leur avais présenté tout mon projet et tout. Et en fait, c'était eux qui nous avaient construit toute la prise en charge après la course. En fait, il y avait le dossard pour la course avec le nombre de jours incompressibles où on devait y être avec cette organisation-là. Et après, j'avais cette agence de voyage qui prenait le relais après et qui nous avait organisé un super séjour à travers la Chine à un prix canon en nous offrant 3 jours, 3 jours pour ma famille et moi avec un emploi du temps de fou, enfin des activités de fou. Et j'avais négocié ça pour mettre en avant justement le pays de la Chine et tout ça.
D'accord.
Et donc, comme quoi, hein, j'étais allée loin dans mon.
Ouais, non, mais c'est intéressant de voir hein, jusqu'où tu étais allée. Hein.
Ouais, non, mais moi, je n'ai pas de limite quand quand j'ai un projet. Et c'est pour ça que je dis vraiment il ne faut pas se mettre de limite. Vraiment. C'est là où, en fait, on se rend compte qu'on peut obtenir vraiment de belles choses. Et du coup, j'avais négocié ça et j'ai pu me faire entièrement rembourser. L'agence de voyage, elle était extraordinaire. Parce que eux, ils étaient les premiers touchés en Chine par cette pandémie. Donc, enfin, j'ai pu me faire entièrement rembourser tout ça, sauf que tout l'accompagnement du prépa physique que j'ai eu pendant un an, ça, bien évidemment que je
Bah
pouvais pas me le faire rembourser. Donc, il y a eu un petit moment de tension d'un point de vue économique à ce moment-là, mais bon, voilà, on a réglé le problème. Et puis voilà, mais c'est vrai que ça m'a coûté, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'était le jeu. Voilà.
c'était le jeu. Et effectivement, alors je sais pas si on l'a dit, tu as des objectifs là maintenant de course, tu as dit le half, l'Ironman, bon, ça c'est un truc qui est fait. Tu as des objectifs là de trucs qui vont arriver?
Alors, je pense être plus light entre guillemets l'année prochaine.
Ouais.
J'aimerais faire un semi au printemps dans une belle ville européenne. Je ne sais pas encore lequel,
Ouais.
mais j'aimerais voyager toujours dans la même optique que depuis tout à l'heure. J'aime voyager et faire des courses, donc j'aimerais bien trouver une destination un peu sympa au printemps. Et après, j'aimerais, parce que j'ai vraiment kiffé le format M du triathlon, j'ai repéré 3-4 triathlons M. pour l'année prochaine. Donc je pense que je vais me donner à fond dans le format M. Peut-être quelques 10 km par-ci par-là, mais pour me motiver à prendre un dossard et parce que enfin voilà, ça permet de revivre un peu les ambiances, les trucs, les comme ça, mais sans forcément d'objectif dedans. Et puis je pense que je vais me réinscrire sur un Alpha Ironman en 2024.
Ah.
Peut-être, mais il faut que je vois au niveau des dates, si j'ai pas regardé à quelle époque c'est. Peut-être du côté d'Aix-en-Provence, parce que j'ai de la famille là-bas. Mais je sais que pour un premier, on me l'a déconseillé, donc je ne l'ai pas fait pour un premier. Mais peut-être pour un deuxième. Voilà.
Ouais, bon, il va falloir caler les Jeux Olympiques quand même dans cette
Exactement.
histoire-là. Tu sais que j'ai regardé parce que moi j'avais dit je voudrais faire un Ironman et puis j'avais décalé, j'ai dit 2023 et puis j'ai dit 2024, c'est plutôt le marathon des Jeux Olympiques. Puis je dis de toute façon, ça colle pas sur les plannings, il y a un peu un truc qui colle pas parce qu'entre l'Ironman de Vichy et les Jeux Olympiques, c'est en même temps.
Ouais, voilà. Mais moi, je vais avoir un vrai sujet parce que, en fait, dans mon travail, en fait, je suis en charge du sponsoring sportif. Comme quoi, tout ce que j'ai fait me sert dans mon travail. Et du coup, là, pour le coup, je suis en lien. En fait, on sponsorise des athlètes qui sont déjà médaillés ou qui ont des projets d'aller chercher une médaille pour
Ouais.
les Jeux de Paris 2024. Et donc, je me nourris de toutes leurs expériences et c'est très enrichissant. Et du coup, voilà, ça c'est marrant et je trouve ça trop cool de pouvoir échanger avec eux sur et leur expérience à eux, mon expérience à moi, même si voilà, j'ai pas du tout de prétention là-dessus, hein, voilà, mais je trouve ça très cool de pouvoir échanger là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ça, enfin, de ce qu'on disait tout à l'heure, on a échangé justement sur la communication autour des athlètes et tout ça, et c'est vrai que c'est pas simple pour ces athlètes-là, mais du coup, voilà, c'est très enrichissant. Et au final, je sais que tout ce que j'ai mis en œuvre pour mon projet, même s'il n'est pas allé au bout, ben en fait, je m'en sers ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Et quand j'ai changé de travail, et ben j'ai parlé de mon histoire. Déjà, je l'ai mis sur mon CV. Je l'ai inscrit sur mon CV, j'en ai parlé lors des entretiens et je pense que ça a pu faire la différence face à d'autres personnes parce que voilà, moi je suis pas hyper di diplômée, enfin j'ai pas de bac plus 5 de grande école de commerce ou quoi, j'ai un petit bac plus 3, voilà, ce qui est déjà bien, hein. Mais j'ai pas fait une grosse école de commerce que j'ai payé 10 000 balles l'année, non, j'ai pas fait ça. Et je pourrais me poser un peu une question de légitimité face à des gens comme ça. Et ben non, moi j'ai pas de souci là-dessus. Et en fait, ben, j'ai raconté voilà, mon histoire, mon truc, ce que j'ai mis en œuvre, et je pense que ça m'a clairement aidé et ça m'a clairement montré aussi qui j'étais. Et c'est vrai que des fois on me demande mais du coup comment tu fais pour les entretiens, des fois on me demande des conseils pour des entretiens ou des choses comme ça dans mon entourage. Et en fait, pour faire la différence, ben, en fait, c'est pas, enfin, on a tous plus ou moins des diplômes similaires ou qui nous apportent plus grand-chose. Maintenant, un diplôme, ça veut plus rien dire, enfin, selon moi. Hein. Après, ça dépend des métiers. Mais en tout cas, dans mon métier, dans la communication, ça veut plus rien dire. Et en fait, le plus important, c'est de montrer qui on est vraiment et de pouvoir justement raconter une histoire. Voilà. Alors après, c'est sûr que c'est peut-être un peu enjolivé. Et encore. Pas forcément. L'idée étant dans un entretien, de toute façon, l'idée c'est de se mettre en avant, hein, clairement. Mais voilà, c'est des fins. C'est comme ce qu'on vient de se le raconter là, c'est ça, quoi. Et du coup, bah, j'ai pas hésité à en parler, à dire, ben bah, voilà, j'ai fait ça. Et je pense clairement que ça m'a aidé et que ça m'a mis en valeur comparé à d'autres.
Mais c'est sûr que l'histoire, et puis de montrer la détermination, montrer l'organisation, parce que c'est ce qui est super intéressant, c'est que pour arriver à préparer ton marathon, la muraille de Chine, comme tu avais fait, l'anticipation, le budget, d'aller chercher des partenaires, de voir que tu avais des partenaires qui pouvaient te suivre, et on le dit, hein, une maison d'édition qui te suivait pour écrire un livre dessus. Il y a tellement de gens qui veulent se faire éditer, qui cherchent aussi comment se faire éditer. C'est pas si simple que ça. Et tout ça,
Exactement.
de montrer que tu as réussi à convaincre, que tu as réussi à avancer, que tu as réussi à mettre en place tous les éléments les uns derrière les autres, bah, en fait, ça montre aussi tes qualités humaines, tes qualités d'organisation, tes qualités de communication, tout un tas de qualités. Donc, c'est totalement logique à un moment donné, d'entreprise, quand elle entend ça, et puis en plus dans le domaine dans lequel toi tu évolues. Tu te dis, bah ouais, elle colle aussi à ce qu'on cherche à faire, à l'accompagnement aussi, aux relations qu'on veut avoir avec des athlètes, avec des sponsors et des partenaires.
Exactement. Alors après, ça, c'est pas que mon job de le sponsoring sportif, c'est une grosse partie, mais c'est pas que ça. Je fais aussi de l'événementiel et tout ça, mais au final, enfin, ça regroupe, enfin, ça se rejoint. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a vraiment aidé. Et du coup, ben, par rapport à ce livre, parce que j'avais écrit un synopsis. J'avais écrit des résumés de chaque chapitre en ne sachant pas encore ce que j'allais vivre. Mais en fait, tout est parti du fait que j'avais rencontré une nana qui écrivait des livres de couture. Et en fait, en discutant avec elle, je dis, mais comment tu as fait pour qu'une maison d'édition ben, t'édite pour ton livre de couture? Et on en avait parlé, elle me dit, ben, moi je propose un synopsis, voilà. Et en fait, elle m'a expliqué ça, je dis, ah ben d'accord. Et en en parlant, je me dis, ah mais tu penses, enfin, est-ce que je pourrais l'appliquer pour mon projet? Tu penses qu'il y a moyen et tout? Et en fait, c'est en échangeant comme ça, et en fait, c'est parti comme ça. Et je me suis dit, ok, bon, ben, il n'y a pas de raison, si je vends bien mon truc, pas de raison, j'y vais. Et puis au pire, j'ai des noms. Et au pire, j'ai quoi à perdre? Enfin, rien. Et du coup, j'ai écrit un synopsis. J'ai écrit des résumés de petits chapitres. Donc, je sais plus, je crois que j'avais 20 chapitres, un truc comme ça. Enfin bon, bref, j'avais fait des projections de titres de chapitres, mais en n'ayant pas encore vécu ce que
Ouais,
j'allais vivre. Donc,
bien sûr.
c'était vraiment une vraie projection, hein. Et ça aurait évolué, bien évidemment. Et du coup, je crois qu'il y a 5 ou 6 chapitres qui sont écrits, que je n'ai jamais fait lire à personne, qui sont dans mon ordinateur. Mais bon, voilà, un jour, peut-être, je continuerai la suite.
Eh bien, écoute, c'est tout ce que je te souhaite, bien entendu, qu'un jour, ce livre, on puisse le lire. Je te réinviterai ce jour-là. parce qu'en plus, les livres, il faut dire, il y a toujours tous les auteurs que j'ai eus, et beaucoup de gens qui sont en auto-édition ou chez les éditeurs, disent toujours que c'est une sacrée aventure aussi en soi, écrire un livre, que ça repose plein de questions, qu'il y a plein de réflexions qui sont dessus. Et moi-même, qui suis en train d'écrire mon livre, bon, j'ai pris beaucoup de retard, hein, que ceux qui écoutent cet épisode ne m'envoient pas, mais j'ai pris énormément de retard. J'ai prévu de le sortir pour mon année de le pour ma fêter mon année de course quotidienne, et ça fait un peu de temps que c'est dépassé. mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais je veux dire que ça, y a toujours des histoires. On revoit aussi un petit peu certaines étapes de ce qu'on a passé, comment elles s'imbriquent les unes dans les autres, en fait. Et on est capable aussi de revoir le fil et comment les choses s'imbriquent. et comment chaque événement, comme ton fameux, tu parlais tout à l'heure du marathon de La Rochelle, la blessure, la rééducation derrière, est-ce que tu as fait ton changement de foulée par exemple? Moi, c'est ce que j'avais vécu aussi quand j'ai ma première préparation marathon, si je m'étais blessé, qui m'avait amené sur le même démarche de devoir changer de foulée. Bah, c'est vrai que quand après tu réécris les choses, tu les mets les unes derrière les autres, tu te rends compte qu'il y a des fils, que ce que tu as fait quelque part te nourrit pour faire les autres choses et étape par étape, tu avances et tu ne sais pas où tu vas encore. Mais en tout cas, je te souhaite d'aller là où tu as envie de voyager, là où tu as envie d'aller, quoi.
Ben merci, mais c'est vrai que là pour le moment j'ai quelques petits projets de course en tête, mais pour le moment je sais pas encore quel sera mon vrai gros projet, mon prochain gros projet. Mais voilà, je me laisse porter aussi. J'ai aussi pris vraiment beaucoup de recul sur la vie. Ça peut paraître très philosophique, mais en fait j'ai eu un rythme de travail qui était très intense pendant plusieurs années. J'ai fait le choix de changer de travail pour aussi avoir un meilleur équilibre de vie pro vie perso. Donc je regrette absolument pas ce changement. Et du coup voilà, je me laisse porter. Et puis j'ai plus tendance, alors même si je reste je reste présente sur les réseaux sociaux, mais moins que ça a été à une époque, parce que je veux vivre ma vie aussi. Et que parfois, avec les réseaux sociaux, on peut avoir tendance, il peut y avoir un côté un peu pervers où, en fait, on vit pas vraiment. On vit à travers les réseaux. Donc, du coup, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Donc, je suis pas la plus assidue sur Instagram. Je serai pas l'instagrammeuse de base qui va faire des 15 stories par jour. Non. Mais voilà, je vis. C'est bien le plus important.
Eh bien, écoute, c'est une magnifique conclusion. On va quand même dire où te retrouver pour ceux qui voudraient te suivre, mais je mettrai bien sûr tous les liens. Mais ton compte Instagram.
Oui, c'est Agathe Runs BDX. BDX qui est la contraction de Bordeaux. Donc voilà, Agathe Runs Bordeaux. Voilà, je suis surtout sur Instagram. J'avoue que le blog, je l'ai plutôt délaissé ces derniers temps, ces dernières années. Ça a été très instructif pendant plusieurs années, mais c'est vrai que là, c'est plus trop enfin, c'est plutôt sur Instagram que vous pourrez me suivre.
Ouais, moi je mettrai le lien quand même vers ton blog, comme ça les gens retrouveront les articles.
Oui.
Ils verront les photos aussi, parce que la
Oui.
photo avant-après est très impressionnante. Et pour ceux qui se posent la question comme ça, ils la verront. Mais on la voit aussi sur ton compte Instagram, donc en
Oui,
fouillant un peu, on la.
ça fait un moment que je ne l'avais pas partagé parce que à un moment donné, je voulais aussi pas passer à autre chose, mais parler d'autres choses. Mais de temps en temps, je refais des petites piqûres de rappel pour pas oublier d'où je viens.
Ouais, elle est pour nous la piqûre de rappel. Hein. Quand je le fais aussi de temps en temps, je
C'est
regarde les
ça.
photos de l'époque, je me dis, oh punaise, qu'est-ce que tu avais
Ah, on
comme
se rend
rappel?
pas forcément compte du chemin parcouru, mais pour tout, hein. Et ça, de prendre un peu de recul, de se dire, des fois, on a l'impression de pas avancer, mais en fait, si, on a déjà
Ouais,
énormément avancé.
on avance beaucoup plus qu'on a l'impression. Et donc, je mettrai aussi le lien vers ton dossier de presse pour que les gens se rendent compte, tu vois, parce que on a beaucoup parlé de dossier partenaire, est-ce que tu avais fait, et que les gens se rendent compte. Et c'est vrai que la démarche d'aller voir les médias, d'avoir des articles, avoir un article sur l'équipe. Mais moi, alors là, tu vois, je me dis, à force que je me. Et là, je dis pas que je suis jaloux, mais je me dis quand même, quand tu es. Enfin, celui qui s'intéresse au sport, à pas avoir un article dans l'équipe, quand même, ça claque. Enfin, moi, je le dis.
Ouais, c'est pas mal. Non,
Hein?
c'est cool. En plus, quand on tape mon nom et mon prénom sur Google, du coup, il y a le reportage de France 3, l'article sur l'équipe et sûrement plein d'autres beaux articles. Mais voilà, c'est vrai que c'est cool ça.
Ouais. Eh ben écoute, je mettrai bien sûr tous les liens dans les notes d'émission. Je te remercie beaucoup, Agathe, pour le temps passé avec moi. C'était, je pense que moi j'ai beaucoup appris de choses. Et puis, ce qui est une belle leçon, hein, sur tout est possible et comment toi tu as bien montré comment tu avais fait les choses, comment c'est organisé. Et bien entendu, je répète, je mets les liens dans les notes d'émission. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre invité, une autre invitée. Je ne vous dis pas qui c'est. Ouf, en fait, je n'en sais rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Donc, ça sera la surprise. Et puis, écoute, Agathe, bonne continuation. Moi, je continue à suivre tes aventures, voir où ça te mènera. Et puis, bien sûr, profite. Voilà, profite. Profite bien de la vie, comme tu l'avais dit. Et merci encore beaucoup. Ciao, ciao.
Un grand merci, au revoir, à très vite.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.